Élément de connaissance. Alors, soyons des citoyens mieux informés. Radio Mandeléo, c'est l'heure du journal.
C'est l'heure de vous informer sur Radio Mandeléo. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue dans cette nouvelle session d'information interactive sur Radio Mandeléo, dont voici les principales articulations. À la ligne de l'actualité, dans cette édition du journal, la démarche visant à lever les immunités de l'ex-président Joseph Kabila par le Sénat congolais est une initiative de nature à freiner les efforts pour résoudre la crise sécuritaire en RDC. Selon le chercheur Henri Pacifique Mayala, ce dernier estime que l'heure est plutôt au dialogue et non à la division pour tenter de résoudre cette crise également politique. Vous l'entendrez dès le début de cette édition du journal. Au sommaire également, grève des enseignants de la sous-division scolaire à Décalé 3. Les enseignants ont déclenché les mouvements ce vendredi 16 mai 2025 pour exiger du gouvernement la prise en compte de leurs revendications. Face à cette situation, la jeunesse décalongue alerte sur cette crise qui menace l'avenir scolaire des milliers d'élèves de cette partie du Sud Kivu. Voilà tout pour les menus de l'actualité Radio Mandeléo en plusieurs lettres, les journaux en deux titres. Mesdames et messieurs, merci et bienvenue.
Ce journal vous est présenté par Héritier Boroto.
Et d'abord cette information, les rapports des consultations menées auprès des forces politiques et sociales nationales et à l'international autour du projet Pacte social pour la paix et le bien vivre ensemble en RDC et dans les Grands Lacs est déjà disponible. Et la primeur de ces rapports est réservée au président Félix Antoine Tshisekedi. Selon le secrétaire général de la CENCOM, monseigneur de l'ancien Cholet, qu'il a révélé devant la presse vendredi 16 mai 2025, les deux églises, à savoir l'église catholique et l'église protestante, attendent désormais d'être reçues par les chefs de l'État pour la présentation de ces rapports avant d'envisager d'autres grandes étapes. Il a révélé que dès la semaine prochaine, l'appel à manifestation sera lancé pour le recrutement des scientifiques intéressés par les thématiques qui doivent être abordées lors du Forum national. Par la même occasion, il reconnaît l'importance d'avoir également les formations politiques proches du pouvoir dans ces forums envisagés par les deux églises. Pour Don Ancien Cholet, l'histoire jugera ceux qui seront des obstacles à la matérialisation de cette initiative pour aboutir à la résolution de la crise sécuritaire dans l'est de la RDC. L'église catholique et l'église protestante ont initié et proposé pour ce faire des consultations de la classe sociopolitique pour un dialogue national. Mais cette démarche est réfutée par les partis présidentiels Union pour la démocratie et le progrès social UDPS qui affirment que l'église n'a pas vocation de prendre des initiatives politiques. Et comme annoncé au sommaire de cette édition du journal, la démarche visant à lever les immunités de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, par les Sénats congolais est de nature à freiner les initiatives de dialoguer pour résoudre la crise sécuritaire en RDC. C'est ce que pense Henri Pacifique Mayala, chercheur à Ebouteli, un institut congolais de recherche sur les questions de conflits et de gouvernance. Il estime que la crise qui secoue la RDC est non seulement sécuritaire, mais aussi politique, d'où l'idée d'associer tous les acteurs majeurs au lieu de priver certains de leurs droits. L'heure est plutôt au dialogue et non à la division, insiste-t-il. Henri Pacifique Mayala dans cet extrait.
Je pense que c'est malheureux qu'au même moment où les efforts de pouvoir accorder la chance à la paix sont en train d'être demandés et s'avèrent être nécessaires de la part de tous les acteurs, que le pouvoir central qui devrait jouer ce rôle d'unificateur s'adonne encore à des pratiques qui semblent plutôt relevé de calculs politiques que de l'assainissement ou des alternatives de réponse à cette crise qui, je le rappelle, n'est plus qu'une crise sécuritaire, mais désormais une crise politique. Envisager gérer une crise politique, ce n'est pas en excluant certains acteurs de l'exercice de leurs droits civiques qu'on y parvient. Il serait mieux de continuer sur cette lancée de dialogue. Je pense que nous avons une chance à saisir. Ici, il ne serait pas responsable de notre part, face à nous-mêmes, face à notre histoire, que les divisions persistent en lieu et place, de pouvoir privilégier le dialogue afin de pouvoir résoudre cette crise.
Henri Pacifique Mayala, il s'est précisé que les sénateurs se sont réunis jeudi dernier pour évoquer les sorts de Joseph Kabila et examiner une demande élevée d'immunité de l'ancien président accusé de complicité avec l'AFC M23. Après un débat houleux marqué par une motion incidentielle, une commission a été constituée au Sénat pour approfondir la question. Et le 17 mai 1997, au niveau national, marque une date commémorative de la fin du régime de Joseph Désiré Mobutu et l'arrivée au pouvoir du 3 troisième président de la RDC, Laurent Désiré Kabila. 28 ans après cette date, reste vive dans la mémoire collective. Qu'est-ce qui s'est passé réellement en République démocratique du Congo ces jours-là? Radio Mandela revient sur les événements ayant conduit à la chute du régime de Mobutu et le début d'une nouvelle ère dans l'histoire politique de la RDC. Expédie Kialo.
Avant leur arrivée à Kinshasa, après un maquis de plusieurs années à Ewabora, dans le territoire de Fizi, les soldats de l'AFDL font un long parcours à partir de la partie est du pays. Ils conquièrent la ville d'Ouvira le 25 octobre 1996 et quelques jours après, soit le 29 octobre 1996, ils investirent Bukavu puis Goma le 1er novembre de la même année. En mai 1997, le maréchal Mobutu décide de jeter ses dernières forces dans la bataille en installant un dernier verrou à Kenge, à presque 250 km de Kinshasa. Avec le renfort des troupes angolaises venues en appui aux forces armées aïroises, les combats eurent lieu pendant presque une semaine. Cependant, ce dernier verrou sauta, rendant ainsi simple l'entrée de l'AFDEL sur Kinshasa. Les affrontements auxquels le public s'attendait dans la capitale Kinshasa n'eurent plus lieu. Le vendredi 16 mai, le maréchal Mobutu quitte Kinshasa pour Gbadoli, chez lui, dans la province de l'Équateur. Les samedis 17 mai 1997, au petit matin, les troupes de l'Alliance des Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDEL, entrent triomphalement à Kinshasa, capitale du Zaïre, qui sera rapidement rebaptisée République démocratique du Congo. Les soldats de l'AFDEL, parmi eux des Kadogo, marchèrent sur le boulevard, applaudis par des Kinois amassés le long de la route. Les gens criaient, chantaient en leur honneur, indiquent plusieurs témoignages. Cette date marque la fin du règne de 32 ans de pouvoir de Mobutu à la tête du pays. Depuis lors, le 17 mai est un jour férié en République démocratique du Congo. Cette journée a longtemps été célébrée comme journée de libération.
Merci Expedi Kalou et mesdames et messieurs, vous suivez Radio Maïndélo à Bukavu et à Kalongi en territoire décalé. Dans un court instant, la suite de cette édition du journal.
Suivez Radio Maïndéléo en direct partout dans le monde sur www.radiomaïndéléo.org. Pour être au parfum de l'actualité, visitez régulièrement les sites internet de Radio Maïndéléo. Radio Maïndéléo, c'est vous.
Je l'annonce au sommaire de cette édition du journal. Les enseignants de la sous-division scolaire de Calais 3 dans la province du Sud qui vont entamer ce vendredi 16 mai 2025 une grève sèche et illimitée. La décision fait suite à des résolutions prises au cours d'une assemblée générale extraordinaire tenue jeudi dernier. La non-satisfaction des revendications jugées urgentes et légitimes justifie cette décision, indiquent ces enseignants. Il s'agit notamment des retards prolongés dans les paiements des salaires, mais aussi des conditions de travail jugées inacceptables. Face à cette crise qui menace l'avenir scolaire des milliers d'élèves, la jeunesse de Kalongue, par la voix de son président Yves Herry, appelle à une intervention rapide et décisive du gouvernement central et de la Caritas, structure chargée des paiements des enseignants dans cette région enclavée. Yves Herry en parle.
Dans la sous-division éducationnelle Calais 3 qui base à Kalongue, les enseignants se sont réunis en assemblée extraordinaire. Et là, ils ont décidé de ne plus se présenter à l'école. Ils ont décidé de faire la grève sèche. Et là, la jeunesse de Kalongue s'interroge de la manière dont sont traités ces enseignants parce qu'ils sont trompés en multiples fois. Chaque jour, on leur trompe et envoyer des numéros auxquels vont venir vos salaires et envoyer des procurations. Et là, ça nous étonne, nous, état jeunesse. Et là, les enfants sont à la maison et on ne sait plus sur quel pied danser. Le gouvernement devrait quand même prendre ses responsabilités à main et payer ses enseignants.
La jeunesse des Kalongue rappelle que l'éducation est un droit fondamental, d'où l'exhortation à toutes les parties prenantes de privilégier le dialogue pour garantir une reprise rapide des cours. Rappelons que nos efforts pour obtenir les réactions des Caritas à Bukavu, à Uvira comme à Kinshasa n'ont toujours pas connu des succès. Dans ces structures, l'on se réserve de répondre aux questions de la presse à ces sujets. Et le sinistre des catastrophes survenues à Bususu et Nyamukubi dans les territoires de Calais demande au comité international de la Croix-Rouge CICR d'étendre son aide sur tous les territoires afin que chaque déplacé en bénéficie. Cette demande intervient après que le CICR ait débuté l'assistance en vivres et biens essentiels des ménages aux déplacés et retournés de Luako, Muhongoza et Nyabibwe dans les territoires de Calais et l'Inde Boudjiriri.
Pour Crispin Laouirouchicha, président du site de Katachola, seuls 30% des déplacés de cette entité ont accès à cette aide pendant que les autres continuent à vivre dans la misère. Tout en remerciant les CICR pour son assistance, Laoui Rochicha lui demande de songer à d'autres déplacés, à d'autres partenaires de faire de même, recommande les responsables du site de Katachola.
Les sinistrés qui vivent à Katachola sont dans l'impasse grave par manque d'eau potable. Il y a une centaine des cas de maladies à Katachola. Il y a aussi les cas de mamans et filles violées lors des combats de FARDC et M23. Il y a présence des cas de malnourris aigus. Nous remercions les partenaires CICR via Croix-Rouge pour son assistance en vivres et non-vivres. Bien qu'à Katachola, les partenaires ont pris seulement 30% de la population des sinistrés. À cela, nous recommandons aux autres organisations de venir aider les sinistrés abandonnés à leur triste sort.
Précisons que cette demande intervient après que le CICR ait débuté avec la distribution d'une assistance composée des vivres et non-vivres. Destinée à 5 880 ménages, cette assistance est composée d'un kit de 25 kg de farine de maïs, 12,5 kg de haricots, 5 litres d'huile et 1,5 kg de sel par ménage. Pour ce qui est des non-vivres, ces ménages bénéficient chacun des 3 couvertures et nattes, un pagne et des vêtements, 3 barres de savon, un seau plastique, des ustensiles de cuisine et des bâches. À en croire Dzaratou Bamba du CICR, la situation des nombreuses communautés s'est détériorée avec la résurgence des conflits, d'où les buts de cette assistance.
Le territoire de Calais particulièrement a été touché par cette même situation depuis le début de l'année. Donc, et le CICR, à la suite d'une évaluation de la situation et des besoins de ces populations déplacées, a constaté une situation difficile pour ces ménages qui sont en difficulté de consommation alimentaire en ce moment. Voilà pourquoi le CICR a initié cette assistance pour un peu soulager tous ces ménages déplacés.
Notre source ajoute qu'il s'agit d'une ration qui pourrait servir pendant environ un mois et les autres biens essentiels permettront de disposer d'une literie décente et un habillement pour les femmes particulièrement.
Pendant ce temps, plus de 285 cas de choléra ont déjà été enregistrés dans la zone de santé d'Ouvira, un territoire qui porte les mêmes noms. Depuis le début de l'année en cours, la recrudescence de cette épidémie dans les milieux s'explique par la consommation des eaux souillées, l'insalubrité, l'utilisation des latrines non assainies, ainsi que la mauvaise gestion des denrées alimentaires, indiquent plusieurs sources au sein de cette zone de santé dans un entretien avec Radio Mindelo Alain Kabika.
Le même source ajoute que la dégradation de la situation sécuritaire a provoqué une flambée des cas. Il y a de cela quelques semaines. Depuis les mois de mars de l'année en cours, rappellent les mêmes sources, en moyenne 10 à 15 cas de choléra sont rapportés par semaine dans cette zone de santé. Ceci s'explique par les mouvements des populations entre les zones touchées et celles qui ne le sont pas. Déjà le vendredi 16 mai 2025, 11 sur les 27 cas pris en charge au centre de traitement du choléra basé sur place ont été autorisés à regagner leur domicile après avoir suivi les traitements, précise notre source. À ce jour, note un agent à la zone de santé d'Ouvira, l'ensemble de la zone de santé d'Ouvira est touché par cette épidémie, avec une recrudescence notable dans les quartiers Kimanga et Nyamianda, qui étaient jadis moins bavards en termes de cas. Au sujet de la riposte, notre source indique que la Croix-Rouge RDC et l'organisation MSF Hollande interviennent contre cette maladie. Des points d'exploration d'eau sont installés à plusieurs endroits pour permettre à la population de consommer une eau potable. Actuellement, des études sont en cours pour aider la régie des eaux à desservir toute la population d'Ouvira en eau potable, annonce notre source. Des spécialistes en santé recommandent aux habitants le strict respect des mesures et gestes barrières pour se protéger contre cette maladie. C'est notamment la consommation de l'eau potable, le lavage régulier des mains, l'utilisation des latrines propres et bien cuire les aliments avant de les consommer. La prise en charge et la restauration des malades sont gratuites, d'où l'appel lancé aux habitants du milieu à référer vers les structures sanitaires tout cas suspect de cette maladie afin de limiter sa propagation au sein de la communauté.
Et dans un tout autre chapitre, les mouvements observatoires d'action parlementaire au BAPJRDC plaident pour la reprise de l'opération d'installation des compteurs après paiement Cashpawa suspendue à Bukavu depuis l'arrivée de l'AFC M23. Mapendolinda.
Au cours d'un entretien avec Radio Mindelo, Amos Bissimwa, membre de ces mouvements, indique que l'installation des compteurs à prépaiement a permis de résoudre plusieurs problèmes liés à l'électrification dans les quartiers et avenues. Parmi les problèmes résolus, il cite notamment les délestages et la surfacturation. Bien que cette opération ait été saluée par de nombreux habitants de Bukavu, elle a été brusquement suspendue depuis l'arrivée du mouvement M23 dans la ville de Bukavu. Pour Amos Bissimwa, les autorités actuelles devraient réfléchir à des mécanismes d'appui à la SNEL afin de garantir la continuité de cette opération qui bénéficie également aux institutions elles-mêmes.
Et avec l'arrivée des compteurs Cashpawa, on ne paye que ce que l'on a consommé. Et la question de l'estage n'est plus au rendez-vous. Partout, on a déjà installé Cashpawa. Malheureusement, avec l'arrivée de l'FCM23, le processus d'installation de ces Cashpawa s'est arrêté. Selon les autorités de la SNEL, le Cashpawa venait de Kinshasa via l'aéroport de Goma. L'aéroport de Goma ne fonctionne plus et Kinshasa ne contrôle plus l'Est. Je doute fort qu'il devait encore s'intéresser de cette situation. Mais aussi du côté de la SNEL aussi, ça permettait à la SNEL de mobiliser l'argent. Et il n'est plus question de sillonner dans des avenues avec des échelles. Si tu n'as pas d'argent, tu n'as pas de courant. Si tu as l'argent, peut-être soit-il même avec 5 000 francs, qui a du courant? Voilà pourquoi nous lançons une demande aux nouvelles autorités qui gèrent la ville, qui gèrent la province, de tout faire pour permettre que ce processus puisse reprendre. Non seulement ça va aider la population, que les nouveaux dirigeants sont en train de diriger, mais aussi ça va permettre à la SNEL de bien faire son travail. Vraiment, il y a urgence. Je sais qu'ils ont cette capacité de le faire.
Signalons que, selon les sources proches de la SNEL, les compteurs et autres matériels utilisés dans cette opération provenaient de Kinshasa. Depuis que Bukavu a été déconnecté de Kinshasa, cette opération ne peut plus se réaliser aussi facilement. Il convient de rappeler qu'à travers un communiqué rendu public peu avant l'entrée de l'AFC M23, la Société nationale d'électricité avait déjà invité les habitants des quartiers Kasali et Nyamugo à se préparer pour cette opération.
Et avant de clôturer complètement cette édition du journal, des nouvelles constructions envahissent actuellement l'emprise de la route nationale numéro 2 dans son tronçon allant de la place de l'Indépendance jusqu'à Tiriri en commune de Bagira. Il s'agit des espaces où des boutiques et annexes des maisons avaient été détruites pour permettre l'élargissement de cette route qui était en pleine réhabilitation mais dont les travaux ont été suspendus à l'entrée des troupes de l'AFC M23 à Bukavu. C'est ce qu'indique le comité local de développement du quartier Tiriri dans un entretien avec Radio Maïndéléo. Cette structure souligne que des personnes mal intentionnées se donnent le courage d'ériger des clôtures et des maisons d'annexes sur les espaces qui étaient dégagés pour obtenir des dimensions requises pour une route nationale. Cette pratique s'observe sur les tronçons allant de l'endroit dit Boussoka jusqu'au marché de Luakabiri, indique Jackson Mulumode Roachizungu, président du CLD Tiriri. Il condamne cette pratique et sollicite l'implication des autorités.
Nous alertons sur la mauvaise pratique de certains habitants du quartier Tiriri qui se donnent le courage d'exfolier la route nationale numéro 2 en reconstruisant dans des endroits qui ont été libérés par cette population elle-même lors des travaux du projet de construction de cette route nationale numéro 2. Voilà qu'ils ont remarqué que les travaux n'évoluent plus, les travaux ont été arrêtés. Maintenant, certaines personnes veulent récupérer les places qui ont été évacuées. En tant qu'acteur social, en tant qu'acteur de développement, nous demandons aux autorités leur implication directe pour arrêter ces gestes qui ne favorisent pas le développement de notre milieu.
Propos recueillis par notre confrère Samuel Abamungo. Et c'est par cette note que nous mettons un point final à cette session d'information sur Radio Maïndéléo. Merci à toutes et à tous de l'avoir suivi avec intérêt. Mais si vous nous avez pris en cours de diffusion, voici les rappels des titres. La démarche visant à lever les immunités de l'ex-président Joseph Kabila par le Sénat congolais est une initiative de nature à freiner les efforts pour résoudre la crise sécuritaire en RDC, selon le chercheur Henri Pacifique Mayala. Ces derniers estiment que l'heure est plutôt au dialogue et non à la division pour tenter de résoudre cette crise également politique. Vous l'avez entendu dans cette édition du journal. Et grève des enseignants de la sous-division scolaire de Calais et Troyes. Les enseignants ont déclenché les mouvements ce vendredi 16 mai 2025 pour exiger du gouvernement la prise en compte de leurs revendications. Face à cette situation, la jeunesse de Kalongue alerte sur cette crise qui menace l'avenir scolaire des milliers d'élèves de cette partie du Sud-Kivu. La mise en onde était celle d'Emile Mouin dans la présentation et Héritier Boroto. Excellente suite et bonne humeur chez vous en compagnie des programmes de Radio Maïndéléo. Tout à l'heure, cette même édition en version Swahili avec notre consoeur Mapendo Linda. Retrouvez-la donc sur le www.radiomaindeleo.org. D'ici là, portez-vous bien, prenez soin de vous et surtout de vos proches. Chaque jour est une vie. Au revoir.